Il est 2h du matin à Jérusalem. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est tout juste 1h, 23h temps universel. Les dernières infos du monde en 10 minutes sur la radio du monde. Mathis Limano, bonsoir Mathis.
Et bonsoir Zéphirin Quadio et bienvenue à tous. L'essentiel de l'actualité internationale, Benjamin Netanyahou appelle les Iraniens à se lever contre le régime maléfique de Téhéran. Hier, Israël a bombardé des dizaines de cibles en Iran, notamment des sites nucléaires dans son opération Rising Lion. Opération qualifiée de déclaration de guerre par la République islamique qui n'a pas tardé à répliquer. Des dizaines de missiles se sont abattus sur Israël dans la soirée, déclenchant les sirènes d'alerte. Le niveau d'alerte vient d'être abaissé. La population est autorisée à sortir des abris à condition de rester à proximité. Cette escalade sans précédent entre Téhéran et Tel Aviv inquiète grandement l'Agence internationale de l'énergie atomique. En effet, plusieurs sites nucléaires ont été ciblés en Iran. Le plus important, celui de Natanz, au centre du pays. Notamment, l'AIEA assure qu'elle surveille la situation de très près. Dans le reste de l'actualité, la reconnaissance de l'État de Palestine attendra, celle par la France en tout cas. Lors d'une prise de parole, Emmanuel Macron a annoncé le report d'une conférence cruciale aux Nations Unies pour la reconnaissance d'un État palestinien. Et puis les enquêteurs ont réussi à extraire l'une des deux boîtes noires de l'avion d'Air India. Elle devrait permettre de connaître les causes du crash qui a tué au moins 265 personnes. Est-ce le début d'une guerre ouverte entre Israël et l'Iran? Après avoir essuyé des dizaines de frappes tout au long de la journée, attaque qui a tué 78 personnes, dont des hauts responsables de l'armée, et lourdement endommagé plusieurs sites nucléaires et militaires, l'Iran a répliqué dans la soirée. Des dizaines de missiles lancés sur Israël. Les habitants ont pu sortir des abris après cette première salve de missiles avant d'y retourner, Charlotte de Rouen, il y a un peu moins d'une heure.
Oui, la population était appelée à rester donc de nouveau dans ces abris antimissiles jusqu'à nouvel ordre. Et cette consigne a été levée il y a un peu plus de 20 minutes maintenant. Les forces armées israéliennes ont détecté de nouveaux tirs de missiles de l'Iran. Les systèmes de défense antiaérien ont été activés pour les intercepter. À Tel Aviv et Jérusalem, de nombreuses explosions ont été entendues. Nouvelle salve de missiles iraniens donc. Et vous le disiez un peu plus tôt dans la soirée, une centaine de missiles avaient déjà été lancés en direction d'Israël, en grande partie, très grande partie, interceptés par le système de défense antiaérien. Mais certains missiles ont atteint Tel Aviv, notamment. Le ministère de la Défense israélien a été visé. Selon la presse israélienne, 9 immeubles de la banlieue de Tel Aviv auraient aussi été touchés. Il est encore trop tôt pour dresser le bilan de cette riposte, mais au moins 40 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement.
Merci Charlotte de Rouen. J'ajoute que les services des pompiers israéliens disent intervenir en ce moment sur plusieurs incidents majeurs, notamment dans la région du Grand Tel Aviv, vous le disiez, à l'image de ces personnes prises au piège dans un gratte-ciel après qu'une frappe a éventré le bâtiment. Cette attaque iranienne est une réplique aux dizaines de missiles qui ont frappé tout au long de la journée le territoire iranien, des sites militaires mais aussi nucléaires. On les pensait un temps épargnés, mais les sites de Fordo et Ispahan ont bien été touchés. Les dégâts sont minimes, assure Téhéran. Mais c'est sur le site de Natanz que la tension se porte. Un site enfoui sous terre mais dont la partie en surface a été détruite par une frappe, annonce l'Agence internationale de l'énergie atomique. Écoutez son patron, Raphaël Grossi.
Le niveau de radioactivité à l'extérieur du site de Natanz est resté inchangé et à des niveaux normaux, ce qui indique qu'il n'y a pas d'impact radiologique externe pour la population ou pour l'environnement à la suite de cet événement. Cependant, en raison des impacts, il y a une contamination radiologique et chimique à l'intérieur des installations de Natanz. Le type de rayonnement présent à l'intérieur de l'installation, principalement des particules alpha, est gérable grâce à des mesures de radioprotection appropriées. L'AIEA continue de surveiller la situation de près. Notre centre d'incident et d'urgence est en contact permanent avec les autorités iraniennes depuis le début de l'attaque, confirmant régulièrement l'état des installations et continuera à le faire dans les jours à venir.
Et parmi les réactions internationales entre appel à la désescalade et à la reprise du dialogue, le président français s'est exprimé dans la soirée. Emmanuel Macron a insisté sur le droit d'Israël à se protéger face à la menace grandissante du programme nucléaire de Téhéran, tout en attribuant à l'Iran une lourde responsabilité dans la déstabilisation de la région. Par ailleurs, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de reconnaître un État palestinien. Ça devait être fait lors d'une conférence aux Nations Unies, conférence reportée en raison de l'escalade entre Tel Aviv et Téhéran.
Ce report ne saurait remettre en cause notre détermination à avancer vers la mise en œuvre de la solution des deux États, quelles que soient les circonstances. J'ai dit ma détermination à reconnaître l'État de Palestine. Elle est entière et c'est une décision souveraine. Nous devons décaler la tenue de cette conférence pour des raisons logistiques et sécuritaires. Quel sens aurait une telle conférence dans laquelle le prince héritier d'Arabie Saoudite et moi-même devions être, que nous coprésidions, où le président de l'autorité palestinienne devait prendre verbalement des engagements forts, au-delà même de la lettre qu'il a déjà écrite, et qui sont des engagements historiques et des déclarations historiques. Si tous les dirigeants de la région, pour des raisons évidentes, sont tenus chez eux, et aujourd'hui même, le prince héritier comme le président de l'autorité palestinienne m'ont indiqué qu'il n'était pas en situation logistique, physique, sécuritaire et politique de se rendre à New York. Néanmoins, la dynamique créée par cette conférence est une dynamique inarrêtable.
Emmanuel Macron, le chef de l'État français, qui s'exprimait donc sur la reconnaissance prochaine d'un État de Palestine. Dans le reste de l'actualité internationale, les enquêteurs ont réussi à extraire l'une des deux boîtes noires de l'avion d'Air India. Elle devrait permettre d'éclaircir les causes du crash du Boeing 787. L'avion s'est écrasé jeudi, moins d'une minute après son décollage de l'aéroport indien d'Ahmedabad à destination de Londres. Le dernier bilan fait état d'au moins 265 morts, dont plus d'une vingtaine de victimes au sol. Un seul survivant a été retrouvé, un ressortissant britannique d'origine indienne. Hier, le premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu sur le site du crash afin de constater l'ampleur de la catastrophe. RFI New Delhi, Léa Ogel.
Le premier ministre indien Narendra Modi a rencontré les familles endeuillées et le seul survivant de l'accident, un ressortissant britannique d'origine indienne. Sur les images relayées par la presse locale, on voit le chef du gouvernement en train d'échanger quelques mots avec le rescapé, toujours hospitalisé. Sur les réseaux sociaux, Narendra Modi a exprimé sa profonde émotion. « Nous sommes tous bouleversés par cette tragédie aérienne ». Il a également rendu hommage à l'un de ses proches collaborateurs, l'ancien ministre en chef du Gujarat, victime du crash. « Il est inimaginable qu'il ne soit plus parmi nous. Je le connaissais depuis des décennies », a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement a par ailleurs tenu une réunion avec les autorités locales pour faire le point sur la situation. Sur place, il reste encore de nombreux débris. L'aile de l'avion est toujours là, calcinée. Les familles endeuillées du crash attendent des réponses et les enquêteurs, eux, continuent leurs recherches dans les décombres. Léa Ogel, New Delhi, RFI.
Les cornes de brume ont résonné sur le port de Nice pour marquer la clôture du sommet des Nations Unies sur l'océan. Une déclaration finale adoptée par les États membres de l'ONU avec, Jeanne Richard, une avancée majeure pour l'environnement.
La France s'était fixé un objectif principal, s'assurer qu'au moins 60 États ratifient le traité sur la haute mer, la condition sine qua non pour qu'il puisse entrer en vigueur. On n'y est pas tout à fait, mais les diplomates français assurent que ce cap des 60 sera atteint dans les semaines qui viennent. La Chine, notamment, a promis au chef de l'État qu'elle en serait. Ce traité vise à mieux protéger les eaux internationales au-delà des zones exclusives des États, soit une surface qui couvre la moitié de la planète et qui n'était pas du tout régulée. Fini le Far West, donc, de premières aires protégées dans ces eaux internationales vont pouvoir être créées et une première COP dédiée à la protection de l'océan devrait même être organisée à l'automne 2026. Cette semaine, il y a aussi eu de timides avancées contre la pollution plastique ou pour la protection des abysses. Plusieurs États ont annoncé de nouvelles aires marines protégées. Tout n'a pas été parfait. Les annonces françaises sont jugées creuses à plusieurs égards par les ONG, mais dans un contexte géopolitique aussi tendu, réussir à réunir 64 chefs d'État et de gouvernement autour de la protection de l'océan, c'est tout de même une bonne nouvelle pour le multilatéralisme.
Et malgré une participation record, donc avec 64 chefs d'État, le sommet a toutefois échoué à lever les fonds attendus, 100 milliards de dollars pour les pays pauvres, et a fait l'impasse notamment sur la question centrale des énergies fossiles. Merci d'écouter RFI, il est 1h10 à Paris, 23h10 en temps universel.